L'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Marie-Claude qui vous reçoit sur ces ondes et je suis en compagnie de deux charmantes dames dont je vous livre les noms et elles se présenteront peut-être un peu mieux après, un peu plus. C'est Monique Serrault donc et Janine Robert qui font toutes les deux partie de l'association France-Palestine Solidarité, dont vous vous doutez bien de quoi nous allons parler aujourd'hui. Bonjour Monique et bonjour Janine.
Bonjour.
Alors, qui est-ce qui commence? Alors, Janine, vous êtes toutes les deux bénévoles, donc?
Oui, on est des bénévoles de l'association. On fait partie du conseil d'administration du groupe de Montpellier. D'accord. L'association, c'est une association nationale, mm-hmm, avec des groupes dans toutes les villes, Montpellier, Nîmes, etc. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 19 septembre. Et c'est un triste anniversaire puisque il y a 40 ans, il y a eu au Liban le massacre des camps de Sabra et du camp de Shatila. Du 16 au 18 septembre, ces camps de réfugiés palestiniens ont été le lieu d'une tuerie qui a duré dans 38 heures où on a massacré. Après, les combattants palestiniens étaient partis, avec l'aide de la France d'ailleurs, Yasser Arafat et les combattants de l'OLP avaient quitté le Liban. Et donc, les troupes israéliennes ont pénétré au Liban. Et du 16 au 18 septembre, Israël, qui contrôlait les accès du camp, a laissé rentrer les milices phalangistes. Les phalangistes, c'était des chrétiens, qui ont donc massacré avec l'aide. Donc Israël contrôlait les entrées, avait même transporté les milices, je crois. Et pendant la nuit, les deux nuits, ont éclairé le camp pour que le massacre soit plus facile. Et donc voilà, c'est un triste anniversaire, mais c'est important de l'évoquer aussi parce que, alors qu'à l'époque, le Premier ministre avait dit des non-juifs ont massacré des non-juifs, qu'est-ce que nous avons à faire avec ça? Et des archives déclassifiées en Israël attestent que à l'époque, le ministre de la Défense, Sharon, avait planifié, avec le chef des milices phalangistes, avait planifié le massacre et avait aidé bien plus que ce qu'avait l'air de dire Begin. Voilà, donc
C'est une date de triste mémoire et c'est vrai que je pense que beaucoup de gens, tout comme moi, gardent un souvenir très ému et bouleversé de ce massacre.
Moi, je vois encore les images.
Oui, tout à fait, ça a été vraiment terrible. Voilà. Bon, donc, déjà, nous sommes dans le vif du sujet et nos auditeurs se doutent bien de quoi nous allons parler. Alors, je ne sais pas laquelle de vous deux, donc c'est Monique.
Je vais éventuellement reprendre pour parler de la journée du 1er octobre, auquel, j'espère, la majorité d'entre vous viendra. Le titre de cette journée, c'est « Une société civile en résistance ». Donc, elle commencera à 14h30. Il y aura trois expositions qui vous seront proposées. Et puis, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour vous informer, des brochures, des livres. Vous pourrez acheter de l'artisanat, des broderies, de l'huile d'olive, etc. À 15h, il y aura une projection, l'apartheid israélien envers le peuple palestinien. Je vais en profiter pour donner une définition du mot apartheid, parce qu'il est souvent contesté en ce qui concerne ce qui se passe en Palestine. Or, la définition Afrikaans de ce mot, déjà le début est assez clair, apartheid, c'est un régime de ségrégation institutionnelle qui agit par une oppression permanente d'un groupe sur un autre. Quand on voit ce qui se passe là-bas en Palestine, notamment à Bethléem, donc avec la ville avec laquelle nous sommes jumelés, mais à Hébron, ou voir Gaza qui depuis 15 ans est totalement bloqué, que les gens de Gaza ne peuvent pas voir leur famille, etc. Tout ça, ça correspond vraiment à ce qu'on appelle de l'apartheid. Et même l'ONU reconnaît ce terme d'apartheid et dit que ça fait un demi-siècle qu'il y a une occupation en Palestine. D'ailleurs, encore une autre parenthèse que je voudrais préciser, c'est qu'il ne s'agit ni d'un conflit ethnique, ni d'un conflit religieux, mais bien d'un problème de colonisation.
Tout à fait.
Ça rend les choses un peu moins excessive, quoi.
Ça fait
moins prendre parti pour... Voilà, c'est une histoire de colonisation. Donc voilà, ce sera donc l'apartheid israélien envers le peuple palestinien, la projection, qui est réalisée par Amnesty International sur la base du rapport « L'apartheid israélien envers le peuple palestinien, un système cruel de domination et un crime contre l'humanité ». Il y aura une pause musicale, parce qu'il faut aussi que, malgré les drames qui se passent, il y ait des moments un peu plus légers. Ensuite, à 16h30, il y aura des interventions, conférences et débats sur la situation générale en Palestine et l'occupation, etc. Il faut savoir qu'il y a eu un été assez chaud, aussi bien à Gaza, où il y a eu pas mal de morts, qu'en Cisjordanie, que depuis quelque temps, il n'y a pas une journée où on n'apprend pas le décès d'un adolescent, et dans l'indifférence la plus complète. Donc ça, c'est important à savoir.
Ce qui est très choquant, d'ailleurs.
Voilà. Et donc, on parlera des formes de résistance populaire à l'occupation. On a Monser Amira, qu'on avait rencontré à Bethléem, qui est le coordinateur du comité de coordination de la lutte populaire, qui nous enverra un message depuis le camp d'Aïda, qui est le camp qui se trouve à Bethléem. Donc, tout ça, je vous conseille de venir les écouter pour avoir des idées précises sur la situation. Et puis, ça se terminera, heureusement aussi, par un moment festif où vous pourrez partager des pâtisseries orientales, thé, etc. Et il y aura un concert avec Rachid et Ali et Ahmed, du Shaabi, de la musique andalouse, etc., des musiques métissées. Donc, voilà pour la journée du 1er octobre.
Une belle occasion de rappeler quand même que ce pays, la Palestine, a toute une histoire et toute une culture, y compris une culture de musique, musicale, etc. Et des textes, j'ai vu qu'il y avait des textes, donc de rappeler quand même que c'est un pays, une entité à part entière.
Totalement. Voilà. Et pour terminer sur la notion d'apartheid, et puisqu'on parle de Bethléem, il faut savoir que Bethléem est à peine 10 km de Jérusalem.
C'est tout près.
Et que pour aller de Bethléem à Jérusalem, il faut quelquefois des heures, voire une demi-journée, parce qu'il faut passer un checkpoint.
Tout à fait.
Et qu'il y a souvent la queue au checkpoint. Nous, on avait fait une fois la queue devant le checkpoint. Il faisait une chaleur épouvantable. Et parmi nous, il y avait quelqu'un qui avait des appareils pour respirer, qui devait aller à l'hôpital. Donc, il y a aussi cette impossibilité d'aller se faire soigner, qui est grave. Et savoir que vous avez 10 km entre deux villes et que pour aller de l'une à l'autre, ça pose autant de problèmes, c'est insupportable.
Tout à fait. Je confirme, puisque ça m'est arrivé, de passer par ce checkpoint. Et ce que je confirme, c'est que la différence qu'on perçoit entre la ville de Jérusalem et Bethléem, c'est au niveau économique et tout, on voit qu'il y a pas, on voit que c'est quelque chose quand même de, voilà, que c'est dur, c'est pauvre. Enfin, c'est choquant, quoi. C'est
totalement.
Choquant. Ouais, tout à fait.
Il faut dire aussi que autant les Palestiniens peuvent mettre une demi-journée, si ce n'est plus, pour faire ces 10 kilomètres. Les Israéliens qui résident dans les colonies qui pullulent autour de Bethléem, eux, ils ont une route qui est interdite aux Palestiniens. Donc, ils vont directement, eux, ils mettent 10 minutes.
Tout à fait.
Et il y a des bus pour les Palestiniens, des bus pour les Israéliens. Donc, ne me dites pas qu'il n'y a pas d'apartheid.
Absolument. Et ce que je voulais aussi comprendre, j'ai cru comprendre que finalement, les Israéliens ne se rendaient pas en Palestine. Les Palestiniens peuvent venir travailler. Bon, puisque, évidemment, ils doivent même coûter moins cher. Je pense qu'il doit y avoir des avantages pour les Israéliens. Mais j'ai cru comprendre quand même que, voilà, que c'était quand même un pays un peu aussi isolé, un peu fermé aussi
totalement.
À l'autre peuple, qui pourtant, au départ, était le même. Quoi.
Totalement.
D'accord.
Oui.
Voilà. Donc, ces journées seront, en fait, cette journée sera importante et j'espère que beaucoup de gens y viendront parce que ce sera, je suppose, aussi l'occasion de discuter entre soi, etc. Et vraiment, voilà. Et donc, qu'est-ce que vous souhaiteriez nous dire ou alors, attendez, peut-être qu'on va faire une petite pause musicale. Parce que comme après, peut-être Janine va prendre la parole, ce sera un petit peu plus... Voilà, pour ne pas interrompre. Qu'est-ce que vous allez passer comme musique ?
Alors, on va passer le trio Joubran,
ah oui,
qui est très connu, qui est venu à Montpellier.
Super, oui.
À Arabesque, il y avait un des Joubran
qui était là. Plusieurs fois, Joubran.
Voilà, donc c'est The Long March.
Voilà. Bonjour chers auditeurs, je suis toujours en compagnie de Monique Serrault et de Janine Robert qui sont de l'association France-Palestine Solidarité. Nous venons d'évoquer la situation terrible que vit à ce moment que vit la Palestine et nous avons commencé à évoquer, parce que ce 19 octobre c'est la commémoration de l'assassinat du massacre de Sabra et Shatila qui a quand même laissé beaucoup de traces dans les mémoires et donc Monique Serrault nous a un petit peu expliqué aussi cette situation d'apartheid, etc. Donc, et de colonisation. Et donc, c'est à vous, Janine, la parole.
Oui, alors, Sabra et Shatila, je te corrige, c'était le 16 et 18,
ah oui,
au 18,
18
septembre.
Voilà. Septembre. Tout à fait, septembre, oui. Bon, enfin, moi,
mais peu importe. Voilà, alors, moi, je voudrais parler aussi du cas de Salah Amouri. Mmh. Salah Amouri, c'est un avocat franco-israélien, chaque fois on se trompe, franco-palestinien.
Oui, ne pas confondre, non, là, c'est pas le mot.
C'est pas pareil.
Ça peut arriver de se tromper.
Et
hein.
Donc, sa mère est française, sa mère a épousé un palestinien et la famille vit à Jérusalem. Salah Amouri est né à Jérusalem, donc... il est, on ne peut pas dire qu'il est citoyen palestinien, puisque, bon, mais enfin, c'est ce qu'il devrait être. Donc, Salah Amouri, c'est un jeune homme de 37 ou 38 ans, qui a eu un parcours très douloureux, parce que, alors qu'il avait 17 ou 19 ans, il a été arrêté par l'armée israélienne, avec une accusation bidon, et il a été mis en détention administrative et il est resté 7 ans en prison. Donc sans charge déclarée, c'est la détention administrative, c'est quelque chose qui date en Israël du mandat britannique et qui permet d'arrêter quelqu'un et puis de le garder en prison sans lui dire pourquoi, sans qu'il ait de perspective de procès ni de sortie de la prison. Bon, comme il avait des origines françaises par sa mère, il a été pris en charge par la FPS qui s'est mobilisée pour dénoncer son cas et grâce à ça, je pense, il est sorti de prison au bout de 7 ans pour rien quand même.
Avec l'appui du gouvernement français quand même.
Oui.
À ce moment-là.
Oui, qui s'est un
vers
peu
la
mobilisé.
Fin. À la fin, oui.
Oui.
Mais au moins, ça a été.
C'est bien quand il y a des petits signes, notons-les.
C'était un petit signe, mais c'en était un quand même.
Tout à fait.
Oui. Enfin, il a fait des études de droit, il est devenu avocat. D'abord, là aussi, au moment de passer son examen, il n'a pas pu se rendre à l'université de Bir Zeit, donc il a perdu un an, mais bon. Voilà. Et donc, il est avocat et il travaille pour l'association Adamir. Adamir, c'est une association de défense des droits humains. Donc, à cette occasion, je signale qu'il y a 6 ONG palestiniennes qui viennent d'être interdites au mois de... Ben, il y a un an maintenant, Israël a décrété que c'était des associations terroristes sans la moindre preuve. Et donc, elles sont persécutées, on a fermé leurs bureaux, ça leur crée des ennuis, y compris au niveau de l'Union européenne, laquelle l'Union européenne a quand même déclaré qu'on ne voyait pas les charges qui pesaient contre elle. C'est une association, Adamir défend les prisonniers, il y a une association de femmes, une association d'agriculteurs, une association de journalistes, au total, il y a 6 associations connues. Et voilà, qui sont empêchés de travailler et qui sont persécutés. Donc Salah Amouri a été, après ses 7 ans de prison, après bon, être devenu avocat, il a épousé une Française. Ils ont 2 enfants, mais elle a été expulsée d'Israël, donc ils ne peuvent pas vivre ensemble, alors que lui, il est très attaché à son pays. Et surtout, il est attaché à la lutte pour la défense des droits. C'est quelqu'un qui est soutenu par le journal L'Humanité, qui passe souvent des articles sur lui. Les autorités françaises, qui s'étaient tellement mobilisées pour des gens comme Ygritte Betancourt, qui était... et pour d'autres, là, ne bouge pas, ou fait le minimum. Enfin, c'est absolument scandaleux, parce qu'il a été réarrêté le 10 mars 2022, cette année, mis toujours en détention administrative pour 4 mois, et le 4 septembre, c'est renouvelé pour 3 mois. Donc, il est en train de passer 7 mois, il est en train d'être en prison depuis 7 mois. Comme il a écrit et il a accusé le gouvernement israélien, tout en étant en prison, il a accusé le gouvernement israélien d'avoir piraté avec le logiciel Pegasus, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Pegasus, son téléphone a été piraté et donc contrôlé, et ben ça lui a valu d'être transféré dans une prison de haute sécurité. Donc c'est vraiment quelqu'un de très bien qu'on a reçu en France, à Nîmes, à Montpellier.
C'est un grand résistant.
Oui, tout à fait. Puis c'est quelqu'un de très attachant et qui est persécuté parce qu'il ne se soumet pas. Voilà. Alors c'est absolument tragique.
Et qui tient ses engagements, parce que quand il avait été libéré, il avait promis aux autres prisonniers qu'il continuera à lutter pour eux. Donc,
D'ailleurs,
c'est remarquable.
Il fait partie de cette association qui s'appelle Adamir et qui est interdite, mais interdite de façon tout à fait arbitraire, puisque en fait personne ne suit, même l'Europe
en Israël,
qui est,
quoi, simplement.
Même l'Europe qui est.
D'accord. Donc, voilà. Nous avons des gens qui résistent quand même sur place. C'est courageux, quoi.
Oui, c'est courageux.
Il y a beaucoup de résistance, même à Gaza, il y a une résistance extraordinaire.
Alors Gaza, oui.
Qui commence malheureusement, les jeunes, il y a de plus en plus de suicides ou de problèmes psychologiques, parce que 15 ans d'enfermement dans un petit lieu où tout manque, c'est quand même assez triste.
Et le pire, c'est que non seulement il y a le blocus qui les empêche de circuler, de recevoir des marchandises et tout ça, mais en plus, périodiquement, et dernièrement cet été, il y a eu une attaque sans aucune raison. Gaza a été bombardée. Je ne sais pas si on s'en souvient, parce que c'est tellement fréquent.
Il y a eu 17 enfants morts et des
Je crois qu'il y a eu 40 morts. Oui, 40
oui,
morts
il y a une
en tout.
De morts, dont 17 enfants.
Et là, il n'y avait pas de raison particulière, si ce n'est pour des raisons électoralistes, parce que c'est bien de taper sur les Palestiniens quand le gouvernement israélien est en difficulté.
Se rappeler en 2014 qu'il y a eu 250 enfants décédés et puis 2000 morts en tout, je crois, je ne sais plus.
Oui, 2000.
Avec des opérations qui ont des mots très. Des notions plan durci, des choses comme ça. Et c'est régulier. Gaza est souvent attaqué.
Oui.
Alors, on dit que c'est parce qu'ils lancent des roquettes, mais les roquettes contre les bombardements. Et puis quand on voit le bilan, il y a, pour ainsi dire, jamais de morts du côté israélien. Alors qu'il y en a énormément du côté palestinien.
Puis quand même, il y a une disproportion énorme qui fait que les Palestiniens, ils sont impuissants, ils n'ont pas le soutien. Israël est soutenu par les États-Unis de façon totalement inconditionnelle. Là, je viens de lire un article de l'ambassadeur des États-Unis en Israël qui est totalement... c'est quand on dit ça, c'est hallucinant parce qu'il ignore toutes les agressions. Les Israéliens, l'expression m'échappe, mais Israël, c'est un pays tout à fait respectable et qui se défend, défend le pire.
Surtout pour les évangélistes, les évangéliques, parce que c'est marqué dans leur Bible que Jérusalem sera le lieu au moment de la fin du monde, ou je ne sais pas quoi. Donc c'est un rapport avec Jérusalem.
C'était surtout Donald Trump qui était soutenu par les chrétiens évangélistes. Mais ce qu'il faut dire et qui donne peut-être un peu d'espoir, c'est qu'aux États-Unis, il y a quand même une évolution. Oui. Notamment chez les jeunes juifs, il y a un détachement de la cause israélienne qui, jusqu'à maintenant, c'était la cause sacrée. Les jeunes juifs sont conscients de l'injustice monstrueuse et se désolidarisent. Enfin, on n'est pas encore... arriver à ce que la politique états-unienne qui est menée par les vieux...
On a reçu une jeune réfusnik ici, avec quatre musiciens druzes une année. Et elle avait fait 155 jours de prison pour avoir refusé de faire le service militaire.
D'accord. Alors, le temps tourne et vous avez trop de choses à dire que je...
Oui.
On avait parlé, vous aviez évoqué, avant qu'on fasse la prochaine pause musicale, vous aviez évoqué l'assassinat d'une jeune femme.
Je vais faire ça très rapidement. Il s'agit d'une journaliste qui avait un gilet pare-balles et qui avait bien en évidence le mot « presse » sur son gilet. Il s'agit de Shiren Abu Akleh, qui est une journaliste palestinienne qui vivait aux États-Unis, qui a été sciemment assassinée. Alors, Israël a mis un temps énorme à reconnaître sa responsabilité. Ils disaient que ce n'était pas eux, etc. Mais récemment, ils ont quand même convenu que c'était bien Israël qui l'avait assassinée, et avec l'insistance de l'ONU.
Oui.
Alors, juste une toute petite phrase que je voudrais terminer. C'est que à la FPS, ça c'est suite à des critiques que nous avons entendues, nous ne sommes pas pro-palestiniens, nous sommes pro-justice pour la Palestine. Ce qui est une énorme nuance.
Tout à fait. Tout à fait. Voilà, bon, donc on va faire une petite pause musicale encore parce que l'heure tourne. Donc Janine, vous nous donnez le titre du prochain morceau.
Alors le prochain morceau, c'est The Tree We Were. Excusez mon anglais qui est défaillant.
C'est pas grave, c'est pas grave. C'est la musique qui nous intéresse. Voilà. Chers auditeurs, donc c'est toujours Marie-Claude en compagnie de Monique Serrault et de Jeannine Robert. Et nous sommes, là, nous avons évoqué malheureusement trop brièvement, mais d'une façon intense, ce qui se passe par rapport à l'apartheid de la Palestine. Voilà, et la mainmise d'Israël en toute impunité souvent et dans le plus grand silence. Donc mesdames, est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu là, les événements qui se préparent et puis bon, peut-être des façons de rentrer en contact avec vous, de se documenter un peu plus, etc. pour les auditeurs qui en auraient besoin, qui seraient intéressés.
Il y a la journée du 1er octobre,
oui,
donc, qui commencera à 14h30, ouais. Qui finira dans la soirée après un buffet.
Voilà, salle Guillaume de Nogaret. Hein.
Oui, pardon, je n'avais pas indiqué ça. Mmh. Et si vous voulez des compléments, il faut aller sur contact@afps34.fr et nous avons également une page Facebook AFPS34.
D'accord, donc tout ça, ça permet de...
Et sinon, le site national, qui est très riche d'informations de toutes sortes, c'est www.france-palestine.org.
Or, d'accord, voilà, pour les gens qui souhaiteraient en savoir. Bah, écoutez, je vous remercie infiniment. Et
ben,
puis
merci
je pense que, j'espère que le samedi 1er octobre, beaucoup de gens seront... En tout cas, il y a toute une journée, donc s'ils vont se renseigner sur...
Une demi-journée.
Pour moi, toute une journée, c'est vrai, 14h. Voilà, c'est vrai que toute une bonne demi-journée, avec un début de soirée aussi. Et voilà, en souhaitant que vous ayez... en tout cas, la Palestine attire beaucoup de gens. Voilà, quant à moi, j'ai deux annonces à vous faire concernant donc les activités gérées par la Maison des Tiers-Monde. Donc demain, donc c'est tout demain, c'est tout proche. Donc il y a un café actualité de 12h à 14h, toujours à la Maison des Tiers-Monde de la Solidarité Internationale à Boulevard Louis Blanc. Donc le titre c'est la guerre en Ukraine et donc comment lutter pour la paix et la sécurité de demain. Et vous voyez que là, ça concerne aussi beaucoup de gens, beaucoup de monde sur cette terre. Et donc, c'est avec Bernard Dreano, qui est cofondateur de l'Assemblée européenne des citoyens, Helsinki Citizens Assembly France, président du Centre d'études et d'initiatives de solidarité internationale. Donc, c'est l'animateur du réseau international dont je viens de citer le nom, Helsinki Citizens. Et depuis des années, il est en contact avec les mouvements de paix au Caucase, aux Balkans, en Russie et en Ukraine. Vous voyez tous ces points sensibles de notre assez proche de chez nous. Et il est président de l'Assemblée européenne des citoyens de France. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Les luttes pour la paix au XXIe siècle ». Tout un programme. Donc, ce sera à l'espace Martin Luther King, 27 boulevard Louis Blanc, demain de 12h à 14h, avec une entrée libre et une dégustation de café. Voilà. Le deuxième, donc, c'est à propos d'une grande manifestation au titre de Désertif Action. C'est fait à l'initiative initiatives d'ONG et particulièrement du CIRAD et du CARI. Et donc, c'est une grande manifestation qui rassemble des gens de tous les pays pour défendre leur position concernant le domaine de la dégradation des terres à travers les prismes de la désertification, la protection de la diversité et l'adaptation au changement climatique et conséquences au nord et au sud. Vous voyez que c'est un gros enjeu et des grosses discussions qui intéressent, qui concernent tout le monde. Et il y aura donc 300 participants du monde entier. Voilà, et particulièrement au sein de cette manifestation, il y en a une qui s'appelle donc le Festival des Terres et des Graines. Alors l'autre, c'est du 5, je crois, au 8 octobre. Et celle-là, du 7 au 8 octobre, c'est le réseau des semeurs de jardins qui est organisateur de ces journées. Et donc, il y aura le 7 octobre, il y a un concert de 20h à minuit au Pérou. Vous voyez, une belle salle, hein, quand même, de spectacle, avec le chauffeur dans le pré Ondaya et Simple Box. Donc, c'est dans ce cadre-là. Donc, bien sûr, André Libre, etc. et vaste écoute. Et le 8 octobre, de 9h30 à 19h, toujours au Pérou, il y aura donc des artefacts et les graines du possible qui sèment l'agroécologie. Donc il y aura un village qui sera fait avec des stands, des marchés paysans, etc. Et je pense qu'on pourra y retrouver d'ailleurs le stand de la MTM, de la Maison des Tiers-Mondes de la Solidarité Internationale. Voilà, je vous dis au revoir à tous. Merci de votre écoute. Merci encore à mes invités.
Merci et voilà. Bonne semaine.
Et bonne semaine à tous et à bientôt. Dans l'Afrique, dans tous ces états, on n'en fait plus. On n'en fait pas, on n'en fait plus.
Oui.
Sauf si ça dépend du CGM. Parce que je trouve que ça raccourcit.
Ben oui. Voilà.
Bon, mais elle y tient, c'est son. Tant que c'est elle, surtout qu'elle écoute. Hein.
Ah oui.
L'autre fois, c'était enfant du Mékong, je l'ai remplacé parce qu'elle était vraiment.